Cap-Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, Cap-Cap thématique, nous vous amenons en voyage et nous allons visiter un pays qui est au nord, un pays du nord et pas du sud. Les gens aiment bien parler du sud, c'est les vacances, mais non. Nous allons vous faire découvrir un pays dont on parle souvent mais qui est très méconnu, les Pays-Bas. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Et pour vous parler de ce pays, de ces Pays-Bas, je suis en compagnie d'un homme qui le connaît fort bien, qui a vécu, qui a travaillé. Vous l'avez déjà entendu pour certains à ce micro dans une précédente émission. Il s'agit de Pierre-Jean Brassac. Bonjour Pierre-Jean.
Bonjour Jacques Lavergne.
Et merci d'être venu au micro d'Esprit Occitanie pour nous parler de ce pays des Pays-Bas. Donc comme je le disais, que je crois que vous avez extrêmement bien connu, qui est un pays complexe.
En effet, un petit pays tout près d'ici finalement, puisque Amsterdam est à 250 km de Lille. C'est quand même assez
oui,
proche.
De Toulouse à Lille, on a aussi un petit trajet à faire quand même.
Oui, mais en plus il y a une autoroute, donc on y est en 2h30, ce qui fait qu'on ne peut pas dire qu'il y ait a priori un exotisme, en tout cas géographique, mais culturellement parlant, si. Si près, si loin. C'est-à-dire que c'est loin d'un point de vue culturel, d'un point de vue linguistique, d'un point de vue social, artistique. Enfin, on va en parler.
On va en parler, on va un peu découper notre propos, aborder le pays par différentes entrées, comme l'on dirait dans un dictionnaire.
Oui, tout à fait.
Peut-être commencer par une des caractéristiques, c'est la mer.
Le pays, déjà, la géographie des Pays-Bas, l'hydrographie, effectivement. Voilà. Pays d'eau, oui, et puis pays sous la mer même. On dit, d'ailleurs, il y a une expression selon laquelle les Pays-Bas sont sous la mer, mais c'est vrai à 25%. 25% du pays se trouve sous le niveau de la mer. Quand vous atterrissez à Schiphol, qui est l'aéroport d'Amsterdam, vous êtes à moins 7 mètres.
Ah oui, quand même, 7 mètres, c'est considérable.
Tout de même, oui.
Donc ça veut dire qu'il y avait des marées, que l'on a asséchées.
Oui,
ou ça...
oui, c'est ça. On voit sur les cartes du Moyen-Âge une frange à l'ouest du pays qui va en gros de la Frise étant cette province du nord, à la Zélande qui est la province du sud qui touche la Belgique. Et toute cette frange assez large qui parfois fait 50 à 80 kilomètres, était composée uniquement de marécages qu'il a fallu assainir, sur lesquels il a fallu construire des canaux, des maisons, des barrages, des digues, beaucoup de digues. Et le mot digue en néerlandais, c'est un mot presque religieux, puisque c'est elle, la digue qui arrête la mer et qui permet de vivre. On pompe tous les matins l'eau des canaux des Pays-Bas pour rejeter à la mer le trop-plein.
Donc c'est jamais ouvert, c'est pas comme Venise par exemple, on a une lagune qui est ouverte sur la mer et on a asséché certains morceaux d'îlots de manière à pouvoir organiser la vie. Là, c'est pas du tout la même problématique.
Non, c'est pas... Parce que naturellement, il y a de l'eau partout et il faut donc rejeter le plus possible cette eau vers la mer et puis aussi empêcher les grosses marées, par exemple, d'inonder les Pays-Bas. Ce qui s'est produit malheureusement en 1953, c'est inscrit dans l'histoire tragique des Pays-Bas, où des milliers de personnes sont mortes noyées, ainsi que le bétail, lorsque il y a eu une conjonction malheureuse d'une tempête venant d'Irlande, et puis un courant qui a amené, qui a empêché en quelque sorte les Pays-Bas de se vider, et la Zélande s'est remplie. Je rappelle que Zélande, ça veut dire terre d'eau ou terre de mer. Tout est inscrit sous le signe de l'eau et de la mer aux Pays-Bas. On en parlera peut-être tout à l'heure. Dans le langage, dans les expressions fleuries des Pays-Bas, on prend la mer à témoin, en quelque sorte. On en tire des lois, on en tire une sagesse aussi.
C'est un partenaire de vie, la mer.
Voilà.
C'est un peu comme Venise, hein. Je fais toujours le parallèle de la Venise, mais c'est une ville que je connais très bien, que j'aime beaucoup,
oui.
Et pas de façon anecdotique. Et alors, comment ça va s'organiser si... c'est pas si, parce qu'il va y avoir de toute façon une montée des océans. Ouais. Venise est qu'on en est. En plus, Venise, elle s'enfonce et elle a l'eau qui monte. Donc, elle a le double effet.
Ouais.
Est-ce que aux Pays-Bas, on a prévu quelque chose pour se garantir autant que possible de cet événement?
On a prévu de gros travaux qui sont en cours, mais dont une partie évidemment est visible et réalisée déjà, qu'on appelle les Delta Werken, c'est-à-dire les travaux du Delta. Il s'agit là de la Zélande, notamment, avec des barrages contre la mer. Ça rappelle le titre de Duras, un barrage contre le Pacifique. Ouais. Là, c'est un barrage contre la mer du Nord qui est extrêmement spectaculaire. Il faut le voir pour le croire. C'est un travail gigantesque. Et les Néerlandais s'enorgueillissent de cette maîtrise qu'ils ont des courants, des marées et de la terre, puisqu'il faut aussi parfois draguer. Il y a des entreprises très performantes aux Pays-Bas. Vous vous souvenez de ce bateau qui a empêché pendant quelques semaines la navigation dans le canal de Suez. Eh bien, qui a pu trouver une solution pour le remettre dans le bon sens? Ce sont des Néerlandais.
Donc ils sont un peu comme les Romains. À l'époque, les Romains ont bâti leur civilisation sur les routes, mais aussi sur leur maîtrise de l'eau.
Oui. Ouais.
Et les Néerlandais sont un peu quelque part leurs successeurs, à part que là il s'agit d'une eau salée.
Oui, pas toujours, parce qu'en fait il y a aussi les rivières qui arrivent. Le Rhin, qui est quand même un fleuve extrêmement puissant avec un gros débit, le Rhin arrive et il menace aussi très souvent l'est du pays. C'est pas justement, comme on pourrait le croire, forcément l'ouest, c'est-à-dire le littoral, qui risque d'être submergé, mais un peu plus haut, si on peut dire aux Pays-Bas un peu plus haut, parce qu'il n'y a pas de relief, mais un peu plus haut, c'est quelques mètres plus haut. Et lorsque le Rhin est empêché, en quelque sorte, de s'écouler dans la mer du Nord, eh bien, évidemment, il va inonder les prairies.
C'est un peu ce qui arrive à Londres, puisque Londres a la Tamise qui remonte, la mer qui remonte, une espèce de masse carrée, plus les eaux qui arrivent du nord.
Absolument.
Et ils ont créé, d'ailleurs, ce que les Vénitiens viennent de mettre juste au point, ça fait, je crois, 40 ans qu'ils l'ont, c'est une espèce de mose, hein, de Moïse, ce barrage qui se relève et qui protège certains faubourgs de Londres.
Voilà. Ça existe aussi donc aux Pays-Bas, hein, près de Middelburg. Mais c'est beaucoup plus impressionnant parce que, évidemment, l'enjeu est plus important. Et vous avez raison, c'est un petit peu plus près de chez nous ce qui se passe dans l'Aude régulièrement. Mmh. C'est-à-dire que l'Aude n'arrive pas à s'écouler dans la mer et donc la mer repousse tout l'excédent dont le pays voudrait se débarrasser à ce moment-là.
Donc un pays bâti sur la mer qui vit avec la mer. Oui. Et alors, elle a beaucoup d'inconvénients, la mer, est-ce qu'elle a des avantages aussi?
Eh bien oui, parce que en fait, prenez Amsterdam, qui a été fondée il y a à peu près 800 ans. Elle doit cette ville, qui est maintenant la capitale des Pays-Bas, elle doit son succès, sa fortune à la mer, au hareng. C'est le hareng qui a permis à cette ville de se développer sur toute la partie sud et nord du rivage de la mer du Nord jusqu'au Danemark, jusqu'à la France. Les Pays-Bas, au Moyen-Âge, déjà exportaient du hareng caqué en direction d'Avignon, les papes d'Avignon.
Est-ce que ce qu'on appelle aussi le stockfish, le hareng?
C'est pas tout à fait la même chose. Le stockfish, je crois que c'est un poisson, quel qu'il soit, mais souvent de la morue, qui a subi un séchage, une dessification.
Parce que dans le Lot, on passe de Venise au Lot, oui, à Amsterdam.
Pourquoi pas, voyageons.
Mais dans le Lot, il y avait les gabarres qui amenaient, oui, le fameux stockfish, c'est-à-dire, oui, ces poissons qui étaient stockés dans des, oui, dans des barriques. Oui. Et que l'on mangeait en principe avec une espèce de purée, oui, purée de, oui, pommes de terre. Ouais, c'était un, ouais, plat très roboratif.
Ah, en effet, oui, oui, j'ignorais ce détail, mais stockfish, oui, c'est un mot. D'ailleurs, stock en néerlandais, c'est bâton. C'est-à-dire, c'est quelque,
oui, voilà,
chose de dur.
De dur et d'allongé.
Fish, ouais, c'est poisson. Donc, poisson bâton, poisson allongé.
Oui, finalement, peut-être. Tous ces pays vivent plus ou moins en symbiose.
Oui, bah oui. D'ailleurs, quand on parle du Zuiderzee, c'est aussi, je pense, un mot que tout le monde a entendu quelquefois à propos des Pays-Bas. C'est une espèce de trou comme ça, maritime, au nord, dans la partie nord des Pays-Bas. Eh bien, ce mot qui veut dire mer du sud. Ce mot, en fait, est un mot danois, parce que pour les pêcheurs danois, cet endroit était évidemment le sud. On est toujours le sudiste, voilà, de quelqu'un.
C'est ça, oui.
Alors peut-être qu'il faut rappeler, Jacques Lavergne, aussi les aspects un peu plus quantitatifs des Pays-Bas en termes déjà de superficie. Parce que comme on compare ça à quoi? Alors les Pays-Bas actuellement ont une superficie de 41 000 km². Pour mémoire, dans les années 50, il n'y avait que 35 000 km². Donc vous entendez que 6 000 km², ce qui est quand même pas mal, ont été gagnés sur la mer depuis lors, avec notamment aussi cette fameuse digue sur le Zuiderzee, qui ferme en quelque sorte cette mer intérieure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est un peu les chiffres comme ça, est-ce que ça nous dit grand-chose? Mais 41 000 km², ça veut dire 13 fois moins que la France. Mais par contre, la population est de 17 millions, un peu plus de 17 millions. Donc, en fait, c'est le rapport, c'est 1 à 4, si,
oui,
on veut, à peu près.
Mmh.
1 à 4. Les Pays-Bas ont 420-430 habitants au kilomètre carré, tandis que nous en avons en France à peu près 110.
Et alors, ces populations, elles venaient d'où?
Alors,
parce que,
oui,
il n'y avait rien, on a dit, il y a des marées, on les a asséchées. Si on, ouais, les a asséchées, c'est que des gens sont arrivés pour le faire et avec le désir d'y vivre. Est-ce, ouais, qu'ils l'ont fait parce que c'était leur désir, ou est-ce qu'ils l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas le choix d'aller ailleurs?
Oui,
ce qui était un peu le cas des Vénitiens au départ, pardon, de ce parallèle permanent
non,
avec
non,
Venise.
Non, mais c'est très bien.
Mais Venise, c'est ça.
De l'eau
on est allé, oui, s'installer là pour se mettre à l'abri, oui, des incursions, oui, de différentes peuplades, et,
oui,
et après, on y est resté.
Non, mais vous avez raison, Jacques. C'est d'autant plus que le parallèle vaut aussi pour la position que et Venise en tant que république et les Pays-Bas aussi en tant que république à un certain moment ont eu dans le commerce international sur mer notamment. On en parlera peut-être tout à l'heure, les Pays-Bas ont développé la première multinationale peut-être au monde, qui était la Compagnie des Indes Orientales, qui a été cotée en bourse, les premières bourses. Donc c'est quand même un événement fondateur de nos systèmes économiques d'aujourd'hui.
La fondation des pays, les premiers colons, on va dire, je ne sais pas si,
oui,
vous employez ce terme, ça remonte à quand?
Alors ça remonte à l'époque romaine. D'ailleurs, le mot batave vient d'un mot local, mais influencé par le latin, et qui voulait dire utile, un peuple utile. C'était de braves gens qui se mettaient volontiers au service, notamment probablement des Romains. Et ils étaient dans l'arrière-pays néerlandais, c'est-à-dire ce qui est globalement maintenant la frontière allemande, voilà, du côté de la Westphalie, de la Rhénanie. Voilà.
En entendant batave, je pense à Brel, hein, dans le port d'Amsterdam,
oui,
les marins qui ramènent leurs bataves.
Oui, 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 oui. Alors, Brel chante merveilleusement, avec beaucoup d'âpreté, de truculence, le port d'Amsterdam. En réalité, le port d'Amsterdam, il y a bien longtemps qu'il n'existe plus de façon aussi concrète. On a une succession maintenant de quais qui ne sont plus dans la ville, mais qui sont à l'extérieur. Ce que dépeint Brel appartient peut-être plutôt au XVIIIe siècle, XIXe siècle. Mais il y a encore des comptoirs, par contre. Les bâtiments sont restés.
Alors, les Romains, donc, premiers habitants ?
Les Romains, qui ont... qui ont fait école, qui ont aidé probablement à justement l'irrigation. Il y a une espèce de mythologie de l'occupation romaine aux Pays-Bas. On cite toujours le personnage de Claudius Civilis, qui était en quelque sorte un Romain batave et héroïque et qui savait tenir la dragée haute à l'occupant. Et puis après, il y a eu la christianisation, il y a eu un célèbre évêque d'Utrecht, notamment, Utrecht étant une ville plus ancienne qu'Amsterdam, et puis aussi plus solide, sur des bases moins marécageuses qu'Amsterdam. Cette langue s'est développée sans le latin. La langue néerlandaise n'a pas... beaucoup germé sur le latin comme d'autres langues en Europe de l'Ouest. Alors, si on fait on franchit un pas un peu rapide, on trouve tout à coup des provinces aux Pays-Bas qui sont des espèces de petits royaumes avec des villes. On verra que la notion de ville est très importante, que la ville, en quelque sorte, est une sorte d'État aussi. Curieusement, ça me fait penser à la situation qu'on a aujourd'hui. On voit que des villes interviennent presque de façon autonome dans le cadre politique. Je pense à Barcelone, je pense à Berlin, ou des maires, ou à New York d'ailleurs, où des maires, ou mairesses pour le cas de Barcelone, se comportent comme... Je ne peux pas dire des petits chefs d'État parce que leur énergie est grande, mais dans une logique qui n'est plus tout à fait celle de la ville. Ça me paraît être un développement intéressant. Et ça, aux Pays-Bas, on le connaît depuis très très longtemps.
Ça veut dire qu'il y a une espèce d'indépendance par rapport au pouvoir central.
Peut-être. Peut-être aussi qu'il y a des...
À Barcelone, on le sait pourquoi. Il y a la catalanité. Mais,
exactement.
Mais j'imagine qu'il n'y a pas ces idées de sécession pour certaines villes aux Pays-Bas. Ça n'a rien à voir.
Non, il n'y a pas de sécession. Il y a des antagonismes au pire et des différences culturelles. Parce que bien sûr, entre La Haye, qui est à 40 km d'Amsterdam, il y a des contrastes culturels assez importants. Amsterdam, c'est la ville cosmopolite, c'est la ville un peu de la gouaille, du commerce, de l'ardeur, de la création. La Haye, c'est une vieille dame avec un lac au bord du Parlement où nagent des cygnes tranquillement, paisiblement, où sont les ambassades aussi.
C'est un peu New York et Washington.
Oui, en fait, hein, c'est vrai. C'est, ça. C'est un peu ça, un peu cette différence, cette sérénité politique de La Haye face à l'énergie, espèce de brillante d'Amsterdam.
On a été aux Romains, mais après les Romains, ils ont vu arriver les Français. Enfin, bien après.
Oui,
c'est passé du temps.
Bien après,
quand même,
avant, il y a eu les Espagnols.
Oui, oui. Oui.
Ça ne vous a pas échappé. Les Pays-Bas ont été très longtemps espagnols.
Est-ce qu'ils en ont gardé encore des traces dans la culture, dans la langue ? Dans la langue, je ne pense pas, mais dans la culture, peut-être.
Oui, alors, dans la culture, il y a eu évidemment un antagonisme tellement fort, une rivalité et puis une détestation à un certain moment. Ce qui s'est passé, c'est que les Espagnols qui occupaient les Pays-Bas à partir du XVIe siècle jusqu'au début du XVIIIe siècle, ça a duré quand même très longtemps, hein, de Philippe II à Philippe IV d'Espagne, les Espagnols étant d'ardents catholiques ne supportaient pas que tout à coup émergent des mouvements protestants, avec la venue d'ailleurs de Calvin. Et donc il y a eu des massacres de protestants. Et ça a compliqué beaucoup les relations entre l'occupant qu'on tolérait à certaines époques et puis le peuple, à tel point que ça aussi, à quelque chose malheur et bon, provoqué l'émergence d'un pouvoir local en la personne, tout le monde le connaît, de Guillaume Ier d'Orange-Nassau, dit Guillaume le Taciturne, qui d'ailleurs, à ce moment-là, a fait une déclaration en français que je trouve digne d'être citée parce qu'elle contient aussi un appel à la tolérance. Je la cherche là et je l'ai sous les yeux. Alors, il dit une conviction intime, proprement révolutionnaire. Il dit « Je ne peux pas admettre que les souverains, et là il parlait bien sûr des Espagnols, veuillent régner sur la conscience de leurs sujets et qu'ils leur enlèvent la liberté de croyance et de religion. Ainsi est fondé le système de protection de la liberté de pensée et d'expression, donc caractéristique de la culture néerlandaise depuis la fin du XVIe siècle.
Formule ancienne, mais qui trouve toujours sa pleine application de nos jours.
Oui, oui, avec... y a un mot qu'on va retenir aussi en ce qui concerne la culture néerlandaise, c'est le mot consensus. Quand j'ai fait quelques interviews il y a pas mal de temps, de 3 ans déjà, auprès d'universitaires néerlandais pour qu'ils me disent quelle était, selon eux, l'identité, je n'aime pas le mot, je le souligne tout de suite, mais enfin, disons, l'identification néerlandaise à une culture néerlandaise. Et ce qu'ils me disaient presque tous en premier, ils disaient, nous sommes des gens du consensus. Ça rejoint cette tolérance dont parle Guillaume d'Orange. Le consensus, c'est-à-dire que quand nous sommes un groupe de personnes, nous sommes, mettons, 8 dans une salle de réunion, il y a un sujet délicat à traiter et sur lequel, à la fin de la réunion, il faudra sortir avec une décision. Les Néerlandais disent volontiers, c'est pas ma décision, mais je peux vivre avec. C'est ça.
Ça s'appelle la tolérance aussi. L'esprit démocratique et la tolérance.
Exactement. Mais pousser le plus loin dans une pratique quotidienne, fonctionnelle.
Plus que les Allemands, parce que c'est vrai que les Allemands, contrairement à nous, ont un système politique où on peut avoir des partis qui ont des visions parfaitement opposées, mais qui s'entendent projet par projet, qui construisent ce que nous ne savons absolument pas faire. Nous sommes dans l'affrontement permanent, affrontement stérile.
Oui, nous sommes. Effectivement, ça c'est très latin et très français. Peut-être que c'est à approfondir dans la dimension égotiste de l'individu latin qui, effectivement, veut convaincre. Et le néerlandais ne veut pas convaincre, forcément, il veut agir. Et donc, il donne la priorité à l'action collective et est prêt à faire quelques sacrifices pour que ça fonctionne. Il me semble, cette étude. En tout cas, le consensus pour les Néerlandais, c'est quelque chose de très important. Avec aussi, mettons en marge, cette remarque concernant l'ego. Il y a un adage néerlandais qui dit, alors je vais le dire en néerlandais pour le traduire immédiatement après, « Ik, zij, drek, moi, dit le fou ».
Oui, ça veut tout dire, ça veut tout dire. On fait une première pause musicale, Bertrand Brassac. Je vais vous laisser l'annoncer parce que j'en serai parfaitement incapable.
Oui.
Ce sont vos choix en
oui,
plus.
Oui, merci. Alors, il s'agit d'une chanson de Boudewijn de Groot, intitulée « Het land van Maas en Waal ». le pays de la Meuse et du Rhin.
Onder de groene hemel, in de blauwe zon, speelt het blikkenharmonieorkest in een grote regenton. Daar trekt over de heuvels en door het grote bos, de lange stoet de bergen in van het circus Jeroen Bos. En we praten en we zingen en we lachen allemaal, want daar achter de hoge bergen ligt het land van Maas en Waal. Een kater voorop, daarachter twee konijnen met een trechter op hun kop. En dan de grote sluis aan, die legt een glazen ei. Wanneer je het schudt, dan sneeuwt het op de Egmondse abdij. Ik reik een meisje mijn koperen hand, dan komen er twee moren met hun slepen in de hand. Dan blaast er de fanfare ter ere van de schaar. Met de vingerhoed, ze houden van elkaar. En onder de purperen hemel, in de bruine zon, speelt nog steeds het harmonieorkest in een grote regenton. Daar trekt over de heuvels en door het grote bos, de lange stoet de bergen in van het circus Jeroen Bos. En we praten en we zingen en we lachen allemaal, want daar achter de hoge bergen ligt het land van Maas en Waal. We zijn aan de koning van Spanje ontsnapt, die had ons in zijn bed en de provisiekast betrapt. We staken alle kerken met brandewijn in brand, het is koud vuur dus het geeft niet en het komt niet in de krant. Het leed is geleden, de horizon schijnt, wanneer de doden dronken zijn en bierlala verdwijnt. Dan steken we de loftrompet en ook de dikke draak, en eten s'avonds zandgebak op het feestje bij Klaasvaart. En onder de gouden hemel, in de zilveren zon, speelt altijd het harmonieorkest in een grote regenton. Daar trekt over de heuvels en door het grote bos, de stoet voorgoed de bergen in van het circus Jeroen Bos. En we praten en we zingen en we lachen. Het land van Maas en Waal. Van Maas en Waal. Van Maas en Waal. Van Maas en Waal.
Voilà, eh bien, c'est du Jérôme Bosch, là.
Oui, c'est Jérôme Bosch. Peintre important.
Dont on parlait tout à l'heure. Alors moi, en préparant l'émission, il y a une... Dans l'histoire des Pays-Bas, on a dit les Romains, les Français sont arrivés, ils ont vécu comme nous tous la Seconde Guerre mondiale, enfin comme nous tous pour ceux qui étaient nés à l'époque, je précise, ce n'était pas mon cas, on ne sait jamais, il vaut mieux préciser ce genre de choses. Donc là, il y a des jeunes dans le studio qui voient toujours beaucoup plus vieux que l'on est. Vous avez parlé de perte de l'innocence. Alors, qu'est-ce que c'est que la perte de l'innocence ?
Oui, alors, c'est assez récent aux Pays-Bas. Les Pays-Bas de l'après-guerre sont un pays... confortable, riche, actif, qui accueille volontiers toutes les nations du monde pour échanger, pour travailler. Et puis, c'est aussi un État prospère. C'est un État qui accueille socialement aussi la misère, l'infortune. On appelle les Gastarbeiters, c'est-à-dire les travailleurs invités, qui sont à l'époque plutôt des Italiens, des Espagnols, puis après ça devient des Turcs, des Marocains. Tout ça se passe très bien.
Contrairement à ce qui s'est passé chez nous, ça s'est très mal passé. Ils ont fini par s'incorporer, bien sûr. Il y a eu quand même des moments pour eux très très difficiles. Voire même plus, il y a eu quand même quelques pogroms, notamment des Italiens en Camargue.
Oui. Bon, alors, aux Pays-Bas, il y a eu des politiques d'intégration extrêmement carrées, je ne dirais pas autoritaires, mais carrées. Par exemple, l'obligation d'apprendre la langue néerlandaise tout de suite dès l'arrivée dans le pays, mais ça depuis longtemps. Ce qui fait que les travailleurs immigrés sont... néerlandophone sans problème. Enfin, donc, on est à un moment donné dans un pays alors, qui est un État-providence. On est dans les années 2000. Et alors, les Pays-Bas sont aussi caractérisés par la grande ouverture. Par exemple, on ne tire jamais les rideaux. La nuit, quand on se promène dans les villes, on voit les familles à table. On voit presque ce qu'elles mangent, ce qu'elles ont dans leur assiette. Et puis, tout à coup, et on va voir pourquoi, les rideaux se ferment. Dans tous les Pays-Bas, désormais, le soir, quand on se promène, eh bien, on ne voit plus les gens chez eux. On voit juste un ray de lumière. C'est tout ce qui reste de cette espèce d'ouverture qui était symbolisée justement par la façon dont les gens considéraient leur habitat. Et pourquoi ? Pourquoi ? Pour deux assassinats dont vous avez entendu parler, qui ont lieu en 2002 et en 2004. Le premier, l'assassinat d'un populiste appelé Pim Fortuyn, qui était un universitaire d'extrême droite, qui affichait son homosexualité et qui a été tué par un défenseur de la nature. Et puis 2 ans plus tard, nouvel assassinat dans la rue. Et d'un personnage dont le nom, évidemment, véhicule un écho extraordinaire, puisqu'il s'agit de l'arrière-petit-fils du peintre Van Gogh, dit-on, nous, Français. Et ce Théo Van Gogh, qui porte le prénom de son arrière-grand-père, le frère du peintre Vincent Van Gogh, mort à Auvers-sur-Oise, est assassiné dans la rue en 2004. Par un musulman d'origine marocaine. Et cela, effectivement, fait dire à de nombreux commentateurs néerlandais et extérieurs que les Pays-Bas, dès lors, avaient perdu leur innocence, c'est-à-dire cette espèce de presque candeur qu'ils avaient.
Confiance
dans l'être humain, facilité comme ça dans les rapports. Et tout à coup, l'ambiance a changé. La confiance s'est amoindrie, notamment vis-à-vis des étrangers, bien entendu.
Alors, comment fonctionne le pays sur le plan politique ?
Alors, sur le plan politique, les Pays-Bas sont une monarchie constitutionnelle. Le chef de l'État, on le sait bien, actuellement, il s'agit du roi Guillaume Alexandre d'Orange-Nassau. Notez bien que dans Orange-Nassau, il y a le souvenir d'un petit bout de territoire dans la vallée du Rhône, n'est-ce pas, qui était la possession du seigneur des Baux, les Baux de Provence. Bon, et donc la maison royale néerlandaise se rattache à cela. Il y a une assemblée nationale qui est la deuxième chambre aux Pays-Bas. Et puis il y a une espèce de Sénat, alors on va très vite, qui est la première chambre. Voilà. Eerste Kamer, Tweede Kamer.
Quel est le rapport des Néerlandais avec leur roi ? Ça n'a rien à voir avec l'Angleterre, j'imagine.
Alors, si ça peut avoir leur rapport affectif, en tout cas, est assez comparable. Je pense à ce que les Anglais éprouvent vis-à-vis de leur reine. J'ai des amis anglais avec qui on peut discuter de tout, mais quand il s'agit de la reine, il faut être un petit peu prudent parce que on connaît le sort que nous avons réservé aux rois et aux reines. Eux sont très respectueux. Les Néerlandais aiment, malgré les défauts qui ne manquent pas d'être mis en relief, les défauts de la famille royale. Pour mémoire, le grand-père de l'actuel roi était quand même accusé d'avoir reçu des pots de vin, le prince Bernhard, pour avoir facilité l'achat de Starfighters par l'armée américaine. Bon, des choses comme ça. Mais
il défrait quand même moins la chronique que les Anglais, que la famille royale anglaise.
Oui, peut-être. Mais ils ont besoin de ce symbole On dit, il y a un mot d'ailleurs, on dit Koningsgezind, c'est-à-dire fidèle au roi. Et on peut d'ailleurs le traduire par une espèce d'amour plutôt que de fidélité.
Et alors après, il y a des partis, comme on peut observer par exemple en France, il y a une gauche, il y a une droite, ou alors c'est un système complètement de pensée complètement
oui.
différente.
Oui, c'est un système de coalition. Avec des remontées électorales des différents partis en fonction de leurs résultats électoraux, qui a évidemment l'inconvénient de compliquer la formation des gouvernements. Là, on vient de le voir récemment, plus exactement, je pense que ça a duré au moins 6 mois avant de pouvoir former un gouvernement, sous d'ailleurs... la houlette de Mark Rutte, qui était le précédent Premier ministre. On a donc
parti... Il y a quand même moins d'opposition que chez nous, elles sont moins tranchées. Il semblerait, la vie politique est peut-être plus apaisée.
Oui,
on est toujours dans la dramatisation.
Elle est peut-être, oui, j'allais dire, elle est plus plurielle. Mais en fait, quand on regarde les dernières élections en France, on s'aperçoit que la pluralité ne cesse de croître au fil du temps. Alors l'affrontement est différent, c'est-à-dire que c'est plutôt une confrontation qu'un affrontement. On confronte les idées. Il y a une extrême droite, il y a peu d'extrême gauche. Il y a la place, et ça on ne peut pas faire l'impasse d'un mot sur la religion, parce que la place des partis religieux est extrêmement importante aux Pays-Bas, qui sont des partis souvent évidemment conservateurs,
beaucoup
évangéliques.
C'est les protestants qui tiennent le haut du pavé,
ou plus oui, maintenant mais, Oui, oui y compris dans les partis qui ne s'affichent pas en protestants premier comme protestants.
Qui venaient peut-être beaucoup en France, ou de France, à un moment où
Absolument. Les Huguenots, qui étaient des travailleurs immigrés, il ne faut pas l'oublier. Et les Néerlandais, avec leur sens pratique, ont été évidemment humanistes, tolérants, mais aussi de bons gestionnaires du pays, un petit peu comme Mme Merkel l'a fait avec les migrants, ou le gouvernement espagnol, quand il a légalisé un certain nombre, 500 000, je crois, migrants, parce que ça faisait de la main-d'œuvre, et puis un partage de la sécurité sociale, etc. Et donc, les Huguenots, oui, il y a énormément de patronymes français qui ont été parfois néerlandisés, comme Leblanc est devenu De Witt, mais on rencontre beaucoup de descendants de Huguenots aux Pays-Bas.
Et des gens qui sont des hommes d'affaires quand même assez redoutables. Il y a de la rigueur, on ne fait pas de folie. Moi, je me suis frotté à quelques chefs d'entreprise néerlandais ou des Français qui étaient cadres ou chefs d'entreprise là-bas, qui sont revenus s'installer ici. Il y avait une rigueur et puis il y avait surtout, au niveau de l'argent, ce n'est pas la gabegie. Hein, quand vous parlez d'honoraires, par exemple, avec un Néerlandais, on n'envisage pas des folies.
Alors, ils ont tout un corpus proverbial, là aussi. Eux-mêmes se nomment volontiers, avec un sourire en coin, les Chinois de l'Europe. Parce que... Et on leur demande, pourquoi les Chinois? Parce que, à part nous, personne ne bat les Chinois dans le commerce. Ils se sentent vraiment comme ça. Et les Pays-Bas ont une économie tertiaire qui fonctionne... évidemment pas sur les matières premières, mais sur la transformation, sur les services. Et ils sont très bons. C'était les premiers à s'installer, d'ailleurs, aux Pays-Bas, au Japon. Le premier comptoir étranger dans le sud du Japon était un comptoir néerlandais. Ça dit, je crois que c'était au XVIIe siècle, ça dit un peu la force de persuasion du navigateur commerçant néerlandais.
Quelle est leur vision des pays du Sud ? Si on se réfère à ce qui se passe dans la gestion de l'Europe, par exemple, la Hollande fait partie des pays que l'on a qualifiés pudiquement de frugaux à une époque où l'on voulait peut-être être un peu plus ouvert, consensuel et partager un certain nombre d'épreuves et le coût financier de ces épreuves. Là, ils n'ont pas vraiment été très ouverts à ce genre de choses.
C'est tout à fait vrai vis-à-vis de la Grèce, notamment à l'époque. Ils sont frugaux, vous dites, c'est un mot. Ils sont toujours frileux quand il s'agit de dépenses.
Mais quand il s'agit de solidarité, ça devient gênant.
Oui, c'est ça. Ils donnent beaucoup. Je crois que justement, c'est un peu le pays des dons. Mais quand il le décide et à qui il décide de le donner. Et puis, ils ont aussi ils rigolent d'eux-mêmes. D'ailleurs, ils disent, nous sommes aussi le pays qui veut être sur la rangée de devant pour 10 centimes. Ça correspondait aux anciennes pièces qu'on appelait une double tieu. Ça, c'est un proverbe néerlandais aussi, dont on rit. On est content d'être comme ça. Cette espèce de morale protestante qui encourage la réussite matérielle et le profit, contrairement à notre morale hexagonale, je pense, qui a encore des relents de honte du profit, de honte de l'argent. Depuis Philippe le Bel qui avait interdit le métier de banque.
La Hollande est aussi caractérisée par une unité, nationale évidente, et puis également une diversité linguistique. Alors, est-ce que c'est une diversité comparable à celle qu'il y a par exemple en Belgique et qui pose d'énormes problèmes, parce qu'il y a un fossé en Belgique, fossé et parfois un abîme même.
Oui. Alors, on peut d'ailleurs juste en profiter pour rectifier, en tout cas élargir le mot Hollande. Quand on parle de Hollande, c'est une sorte de raccourci pour désigner... d'abord, il y a deux Hollandes et il y a encore 10 provinces qui ne s'appellent pas Hollande aux Pays-Bas. Donc, on devrait dire toujours les Pays-Bas. Les Néerlandais eux-mêmes disent Nederland, les Pays-Bas.
Les Pays-Bas.
Voilà, c'est...
Vous êtes venu avec un livre de poésie, on pourrait peut-être un moment un peu plus léger pour que vous nous lisiez un peu de poésie des Pays-Bas.
Bien sûr.
Dans le texte, et après vous nous ferez de la traduction.
Je ferai la traduction.
Dans le sens que vous voulez.
Oui, merci.
Puisque vous avez vous-même traduit beaucoup de... et notamment peut-être ce livre.
Oui, justement. Alors, quelques... vers, dans la langue originale peut-être, pour faire entendre la musique.
Pour l'oreille, oui.
Et puis ensuite, la traduction française. C'est tiré d'un ouvrage de poésie qui fait en collaboration avec 15 poètes néerlandais, et principalement de Zélande, justement, ce fameux pays dont on parlait tout à l'heure, qui a donné son nom à la Nouvelle-Zélande, parce que quand on dit Zélande, on pense tout de suite à la Nouvelle-Zélande, mais c'est parce qu'il a été découvert, ce pays, par des marins néerlandais qui venaient justement de Zélande et qui se sont dit, tiens, ça va être comme chez nous ici, à l'autre bout.
Oui, c'est pas tout à fait pareil quand même.
C'est pas tout à fait pareil. Alors, voilà un court poème qui s'intitule « Zé ». « Zé ». Qui est un poème d'un poète nommé Tom Schreier. Alors, c'est déjà un mot un peu difficile à entendre pour nous. Et le titre, c'est Zee, qui veut dire mer. Er is geen water dans de zee. Geen zee dans de water. En daarmee... Geen landing breder dan de branding. Geen branding dan herhalen van de zee. Et ça rappelle Paul Valéry.
Oui, enfin, vous écoutant, j'ai pas pensé à Paul Valéry.
Non, mais vous allez voir.
Il y a quand même c'est une langue qui est très, très éloignée de nos langues latines.
Très rappeuse.
On est presque là, en Allemagne, là. Ça rappelle un peu quelques consonances.
Oui, c'est...
Outre-Rhin.
De nombreux mots, déjà, le mot Vater, qui est Wasser, Branding, etc. Voici la traduction. Mer. Il n'est d'eau que la mer. Pas de mer que d'eau. Et avec cela, pas de débarquement plus vaste que le ressac. Pas de ressac que le recommencement de la mer. Bref.
Toujours la mer.
Toujours la mer. La mer toujours recommencée.
Mais tout le pays n'est pas en bord de mer. Le pays intérieur, comment il vit ce rapport à la mer, lui qui en est beaucoup plus éloigné, peut-être moins menacé?
Oui, alors vous avez donc un littoral qui fait en gros 250 kilomètres l'ouest du pays, avec donc le grand port du pays, évidemment, qui est aussi, je le souligne, le port de l'Allemagne, Rotterdam, le port de l'Allemagne pour ce qui concerne les approvisionnements en hydrocarbures. Il y a Amsterdam, qui est un port un peu plus spécialisé et beaucoup moins important, qui ne reçoit pas beaucoup de conteneurs, que je sache, qui est le port du cacao, le port de produits du café, par exemple, des choses comme ça. Et puis, après, vous avez des ports de deuxième ou troisième importance, comme Flessing, comme Scheveningen, qui se trouve près de La Haye, pour la pêche, Eemuiden, etc.
Est-ce qu'il y a des fabrications, des produits typiques néerlandais? Dans quoi sont-ils forts?
Oui, alors, dans quoi ils sont forts? Ils sont forts dans les services, dans le dragage, dans tout ce qui concerne l'eau, les sols, les fonds marins, les rivières, les fleuves. Après, on le sait bien, ils sont forts en fromage, l'autre pays du fromage.
C'est pas tout à fait le même que le nôtre, quand même. Hein.
Non, pas du tout. C'est une pâte molle.
Voilà.
Et puis,
pâte cuite.
On a, pardon.
Ce sont des pâtes cuites.
Ce sont des pâtes cuites et on apprécie moins le vieux fromage, le fromage passé comme ça en vieillissement est moins important. On trouve du vieux Gouda, c'est un peu le fromage le plus connu en dehors des Pays-Bas, mais il y a bien d'autres sortes, mais peu de sortes, certainement comparé à la France. Où...
Ça, c'est l'agriculture, mais après, l'agriculture. Sur le plan industriel...
Alors, sur le plan industriel, il y a quelques chantiers navals qui se sont surtout convertis, je crois, dans les bâtiments de moyenne importance. Ils vendent beaucoup aux Émirats, beaucoup aux Russes aussi, je crois. Vous voyez, ces espèces de croiseurs, comme ça... qui font 20-30 mètres, des yachts de luxe. Et puis après, bon, évidemment, l'industrie du café, du chocolat est très importante aux Pays-Bas. C'est un peu... Alors, les fleurs, vous avez...
La tulipe. Hein.
Alors, oui, mais pas seulement la tulipe. Oui, la tulipe, bien entendu, qui est de courte durée, au mois d'avril, on voit aux Pays-Bas... notamment dans l'est du pays, parce qu'il faut du sable pour la tulipe. Donc c'est pratiquement en bord de mer. Mais alors, vous avez un marché absolument fabuleux. Vous avez peut-être vu des images en reportage qui s'appelle Aalsmeer. Encore un nom de lac. Meer, ça veut dire lac. Hein, donc tout est sur l'eau. C'est juste à côté de l'aéroport, d'ailleurs. Et là, arrivent du monde entier, notamment d'Afrique, mais aussi d'Asie, et d'autres pays européens, des fleurs. Donc c'est à la fois un centre d'importation et d'exportation de fleurs de tous les pays, et bien sûr des fleurs néerlandaises, qui doivent constituer, je pense, une faible partie de ce commerce, qui est un commerce certainement le plus important, je voudrais dire, au monde, de fleurs coupées. Et j'étais surpris l'autre jour, j'étais à... fois de voir un camion néerlandais livrer des fleurs aux fleuristes de Foix. Et il venait des Pays-Bas.
Le coût en CO2 des fleurs doit être assez dramatique, mais bon. On écoute le mot. Là, je me risque à le prononcer.
Oui, très bien. Pour MEAU, ça va.
Voilà, c'est beaucoup plus facile pour moi. Oui, oui. Et c'est aussi votre choix, Pierre.
Merci,
Jean Brassac.
Oui. Oui.
Gisteren zat ik hier met een vriend. We hadden het over toen ik jou verliet. Al best lang geleden, toch te lang gewacht. We hadden het over je ziel en je kracht. Hoe jij dat zo zag dan, hoe jij je gedroeg. Nee, voor jou was er nooit iemand genoeg. Jij was het speciaals, deed nog nooit iets verkeerd. Met gesloten ogen bekeek ik het weer. Hoe ik toen een meisje was, jij een vreselijke droom. Had mezelf het gezegd en mezelf het beloofd. Had het afgesloten, weg met verdriet. En ik zou het vergeten, maar het lukt me weer niet. Want de pijn die blijft, het zit dieper dan dat. Ik zou een moord doen, zodat ik je woorden vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb ik jij gedaan. Gisteren kwam er een besef. Jij duwde iedereen ver van me weg. En dingen die jij tegen me zei. Dat vrienden me haatten, maar jij hield van mij. Je uitspraken waren zo goed als gestoord. Vooral met een slok op, dan draaide je door. Makkelijk praten had weg moeten gaan, maar graag had ik nog zoveel anders gedaan. Hoe ik toen een meisje was, jij een vreselijke droom. Had mezelf het gezegd en mezelf het beloofd. Had het afgesloten, weg met verdriet. En ik zou het vergeten, maar het lukt me weer niet. Want de pijn die blijft, het zit dieper dan dat. Ik zou een moord doen, zodat ik je woorden vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan. Je hebt me beschadigd.
Voilà, nous allons interrompre mot parce que le temps passe très vite et on a encore on aurait beaucoup de choses à dire. Pierre-Jean Brassac, notre spécialiste des Pays-Bas. Alors comment on vit aux Pays-Bas? Est-ce que c'est une vie agréable? Est-ce que c'est une vie laborieuse? Est-ce que c'est un pays? Est-ce que c'est triste? Est-ce que c'est joyeux? Ce qu'on sait des Pays-Bas, nous, vu d'ici, c'est qu'on peut aller en vélo à Toulouse. On ne peut pas rouler en vélo, sinon on se fait tuer. Mais
oui,
puisque nous n'avons aucune piste cyclable, contrairement à ce que pense la mairie. Mais aux Pays-Bas, on est des
on
gens.
On est vraiment protégé.
Est-ce qu'on est écologique? Donc ça veut dire, c'est une conscience écologique qui les pousse à rouler en vélo?
Oui, certainement, mais il faut revenir aussi aux structures du pays. Tout est proche aux Pays-Bas, puisqu'on l'a vu, il y a 450 habitants au kilomètre carré. Ça veut dire qu'il y a donc une urbanisation qui est telle qu'aucun village n'est éloigné de plus de 8-10 kilomètres de l'autre. Donc, du coup, ça ne vaut pas la peine de prendre la voiture. Et de longue date, les Pays-Bas se sont équipés en piste cyclable. Et le réseau routier néerlandais, réservé aux voitures, est doublé, mais absolument doublé, de pistes cyclables. C'est-à-dire que vous pouvez entrer depuis la Belgique aux Pays-Bas par une piste cyclable et vous pouvez en ressortir tout en haut, en Frise, par une piste cyclable en Allemagne.
Heureux pays.
Oui, de ce point de vue-là, c'est formidable. Et il y a toute une attention de la part des automobilistes, évidemment vis-à-vis de la fragilité des cyclistes. Quand, par exemple, on tourne, on prend un virage, il faut regarder d'une certaine façon, dont on n'a pas l'habitude en France, malheureusement. Et c'est pour ça qu'il y a des accidents.
Qui était à Paris il y a deux jours, on est sur le trottoir, il faut quand même être très vigilant, parce qu'il y a des cyclistes.
Même
je ne parle même pas des trottinettes, mais Bon, le cycliste est quand même à la fois un danger et une victime chez
oui,
nous.
Oui.
Ce qui n'est pas le cas en Hollande où
non,
on est quand même un peu plus.
Même s'il y a hélas des accidents dans certaines grandes villes comme Amsterdam où tout n'est pas réglé. Parce que par exemple, un automobiliste gare sa voiture sur la piste cyclable et donc il faut décrocher, par exemple.
Oui, ça, nous connaissons tout ça ici.
Oui, ici aussi.
Où il n'y a pas de règle ici, si ce n'est la règle de l'emmerdement maximum des autres. comment est le climat en Hollande? C'est... Alors, on a l'impression, nous, à Toulousains, qu'au-delà de Limoges, il pleut tout le temps.
Oui.
Mais j'imagine que ce n'est pas le cas. C'est une image d'Épinal.
Bah, c'est un climat venté et pluvieux. Après, je ne connais pas les chiffres. En millimètres de la moyenne annuelle aux Pays-Bas comparée à d'autres régions de France. Je pense qu'on a quelques exemples du même climat en Picardie, par exemple, ou dans les Vosges. Encore que dans les Vosges, il y a évidemment un relief, c'est un peu différent. Voilà, c'est ça. C'est pas... Il y a le vent de la mer du Nord, par contre, qui est un couloir comme ça, qui fait que...
Et donc des éoliennes.
Il y a des éoliennes, bien sûr, beaucoup d'éoliennes. Il y a aussi des usines de marée motrice ici et là, il y en a peu. Il y a de l'offshore.
Et puis il y a autre chose qui commence à poser beaucoup de problèmes aux Hollandais, mais pas qu'aux Hollandais dans le monde, c'est la présence de plus en plus visible, consommatrice d'eau et d'électricité, des data centers.
Oui.
Qui pose notamment dans la banlieue d'Amsterdam.
Oui.
Il y a une mairesse là, qui a dit non, stop, c'est fini chez moi.
Oui.
Les édiles d'Amsterdam ont relayé aussi. Donc ils ont ce problème, mais qui ne sera pas que pour eux, puisque nous avons à peu près le même questionnement. Qu'est-ce qu'on mange quand on va? Qu'est-ce qu'il faut manger si demain je vais à Amsterdam?
Oui, alors oui, c'est ça. Faisons une espèce de programme comme si on y allait demain. Alors demain, on arrive à Amsterdam, à l'aéroport. On va tout de suite dans la ville. Et puis, on va prendre un petit déjeuner. Alors, le petit déjeuner néerlandais ressemble beaucoup au petit déjeuner anglais. Donc, pas besoin de le décrire. Il y a du fromage, il y a de la viande, il y a du thé, il y a du café. Ce qui présente dans les repas aussi, et même au petit déjeuner pour certains, c'est le lait. Le lait babeur, c'est le lait caillé, ou le lait tout court. On boit beaucoup de lait aux Pays-Bas. On mange beaucoup de pommes de terre aussi. Et puis on mange surtout de plus en plus de ce qu'on appelle de la fusion, c'est-à-dire des recettes françaises, des recettes anglaises, un peu d'ailleurs comme en France, de plus en plus aussi. L'exotisme culinaire est quelque chose qui est très apprécié par les Néerlandais. Et bien sûr, un peu de poisson, mais beaucoup moins qu'on pourrait imaginer pour un peuple qui vit au bord de la mer, parce qu'il y a peut-être une espèce de discrédit du poisson, à part le hareng, dans la mesure où... C'était traditionnellement au 19e et même au début du 20e la nourriture pauvre, le poisson. Ça coûtait rien parce qu'il y avait tellement d'arrivages qu'on pouvait se nourrir
à bas prix. Ils ont un plat typique qui vraiment représente, bon, si on est ici, on peut parler par exemple du cassoulet, on peut parler du foie gras. Est-ce que chez eux, il y a un plat qui est vraiment le symbole du pays?
Est-ce que le symbole du pays? Oui. Alors, il y a une soupe, qui est une soupe qu'on appelle de pois, ertessoep. C'est une soupe de pois cassé. Alors, c'est verdâtre, épais.
Vous ne donnez pas envie, là. Hein.
Bon, c'est très bon, pourtant. Et il y a dedans une saucisse et un peu de lard, suivant les recettes. Et alors, c'est... très consistant et ça se consomme surtout en hiver, évidemment.
Et après, on peut reprendre le vélo et repartir.
Ou le patin à glace. C'est, alors justement, quand et ça arrive bien sûr de moins en moins, mais quand on fait du patin à glace sur les canaux, ça c'est une expérience extraordinaire de traverser les Pays-Bas sur des patins, eh bien, le long des canaux qui sont gelés... des particuliers, spontanément, proposent de cette soupe de pois qui est très roborative.
Je me doute. Les Pays-Bas, c'est aussi un pays de culture, par contre, peinture, musique, oui. Grands auteurs,
oui.
Peut-être quelques noms, Pierre-Jean Brassac.
Oui, oui, alors, peinture, c'est... pour les Pays-Bas fondamentales, puisque les Pays-Bas avaient jusqu'aux années 70 l'équivalent de notre intermittents du spectacle en France. Il y avait des intermittents de la peinture, c'est-à-dire qu'on encourageait les peintres à peindre, et moyennant quoi il y avait une contre-performance de l'État qui consistait à leur verser une sorte de salaire. Donc vous imaginez que pendant des années et des années, on a stocké les peintures qui arrivaient, produites par ces intermittents de la peinture, je les appellerai comme ça pour comparer avec la France, et des caves entières aux Pays-Bas sont pleines de ces tableaux. Alors, on peut se demander si ils seront exposés prochainement. Mais en tout cas, il y a un stock fantastique. Alors après, les Pays-Bas sont les inventeurs, avec les Flandres, de la peinture à l'huile, notamment avec les Van Dyck, les frères et Van Eyck, et Jérôme Bosch. Puisqu'à cette époque-là, on utilise encore partout, y compris en Italie, la tempera, donc c'est le liant du pigment avec du blanc d'œuf. Les Néerlandais se disent, tiens, si on utilisait de l'huile de lin, alors ils peignent encore sur des panneaux en bois, mais avec de la peinture à l'huile, avec un séchage qui est donc aussi plus long, donc ça change un petit peu le mode de création, le mode de la facture même du tableau. Alors, Jérôme Bosch, bien sûr, tout le monde, ou presque, le connaît, c'est le faiseur de diable, c'est le peintre du fantastique. Et il y a bien sûr aussi Frans Hals, qui est le peintre de la joie de vivre, le peintre des buveurs, le peintre des tavernes. Et puis, dans une taverne un peu plus loin, Frans Hals, c'est Haarlem. Un peu plus loin, à Delft, on trouve Vermeer, qui était lui-même tenancier d'une auberge, quand il ne peignait pas la vue de Delft, que l'on connaît, qui était le tableau préféré de Proust. Et puis, il y a la fameuse école de La Haye, qui est une école impressionniste. Et après la guerre, je voudrais souligner le mouvement Cobra, qui est un mouvement qui tente de revenir à l'imaginaire...
Qu'on a connu en France aussi.
Qu'on a connu en France avec d'autres mondes, notamment. Mmh. Alechinski, qui est un Belge. Oui. Aux Pays-Bas, c'est principalement Corneille, qui s'appelait en fait Cornelis Beverlo, et Apple, Karl Apple, qui est un cobra, parce que Copenhague, Bruxelles, Amsterdam, cobra.
Des écrivains aussi, des penseurs, Erasme, par
oui,
exemple,
alors, Erasme, justement, qui était voisin à un certain moment de Jérôme Bosch, puisqu'il est venu à Bois-le-Duc, où travaillait Jérôme Bosch. Erasme, qui est un personnage extraordinaire, hein, de tolérance, de culture, Renaissance, il est allé voir Thomas More, à Londres, Thomas More qui est disparu peu après sous le couperet et la cruauté de son souverain. Des gens comme, et ça va vous toucher peut-être, vous, avocat Jacques Lavergne, Grotius, Hugo de Grotte,
bien sûr, oui.
Qui est le fondateur du droit international, qui était un grand néerlandais. Et puis, bien sûr, Rembrandt. J'allais oublier Rembrandt. Rembrandt, qui est un prénom, d'ailleurs. Hein. Il s'appelait Rembrandt van Rijn. Rembrandt du Rhin. Qui est un homme remarquable sous plusieurs rapports. Bien sûr, sa peinture, mais aussi sa vie difficultueuse, sa vie un peu de victime de la société, n'arrivant pas à s'entendre avec ses commettants, avec ses commanditaires.
Oh, ça, c'est un peu le lot de tous les peintres,
des artistes, vous allez dire.
Il y en a même qui avaient quand même souvent aussi l'épée à la main. Si on regarde le Caravage, par exemple.
Oui, exactement.
Il avait le sang chaud, le garçon. Il avait le sang chaud.
Tout à fait. Alors, on peut voir à Amsterdam, on peut voir l'atelier de Rembrandt. Voilà un beau sujet de visite. Et on peut voir aussi la petite cour dans laquelle il est censé avoir peint la Ronde de Nuit. Alors, ceux qui imaginent un peu les dimensions de la Ronde de Nuit, ça doit être du 3 mètres sur 2,50 mètres, auront du mal à comprendre qu'il ait pu peindre cette immense toile dans un local extérieur aussi réduit. Mais si, c'est...
c'est la magie de l'artiste.
C'est la magie de l'artiste. D'ailleurs, vous savez que très récemment, on a découvert qu'il y avait en fait les bordures qui avaient été coupées et on les a rajoutées, ce qui donne une nouvelle Ronde de Nuit, pour le paiement de laquelle il a eu beaucoup de difficultés aussi, parce que les personnages, il y en a beaucoup, étaient un peu déçus. Soit de leur posture, soit de l'interprétation du peintre. Et pourtant, c'est tellement flamboyant, tellement lumineux comme tableau, on n'arrive pas à bien comprendre pourquoi il y avait des mécontents.
Pierre-Jean Brassac, on va s'arrêter sur Rembrandt, il y aurait encore énormément de choses à dire.
Oui, il y aurait aussi à parler de Spinoza.
Mais peut-être que vous reviendrez nous en parler.
Philosophe néerlandais.
Nous aurons peut-être l'occasion de continuer, de poursuivre cette conversation sur les Pays-Bas que nous avons amenés aujourd'hui, comme dirait un autre très ancien français, à Sceaux et Grandbade. Hein.
Oui, vous aimez Montaigne,
tout à fait, tout à fait. Alors, je voudrais signaler votre livre « 5 saisons aux Pays-Bas, le royaume qui porte l'eau à la mer », donc de Pierre-Jean Brassac, et c'est aux éditions Autrement. Donc, si vous voulez poursuivre ce voyage pour préparer celui que vous allez nécessairement faire après tout ce que l'on a dit, j'espère qu'on,
tant de choses à voir,
voilà, qu'on vous a donné envie de partir, de préparer ce voyage et de partir, c'est peut-être la bonne époque. Lisez le livre de Pierre-Jean Brassac, Le Royaume qui porte l'eau à la mer, et puis ensuite, eh bien, bon voyage à tous dans ce pays de la mer, dans ce pays de l'eau. Merci Pierre-Jean Brassac d'être venu nous parler de ce pays que vous connaissez infiniment bien. C'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne. Avec la technique, au bouton, nous avions Marco Pazzoni, qui lui est plutôt, vous l'entendez, d'un homme du Sud, et Tiffaine Lemaine qui supervisait. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site, bien sûr, de la station Esprit Occitanie. Bonne semaine à toutes et à tous.